Bienvenue sur les bonnes ondes de Radio B.
Nous sommes les élèves de deuxième année du CAP AGA du lycée Gabriel Voisin de Bourg-en-Bresse.
Deux AGA, ça veut dire agent accompagnement au grand âge.
Nous avons décidé de vous parler de notre formation et de toutes les problématiques qui sont liées.
On commence tout de suite avec Léane et Clara qui nous présentent concrètement le CAP 2AGA.
Léane et Clara, bienvenue.
Bonjour, je suis Léane.
Bonjour, je suis Clara. Le CAP 2AGA ou agent accompagnement au grand âge forme au métier de l'accompagnement des personnes âgées dans leur vie quotidienne, qu'elles soient autonomes ou dépendantes. La formation dure 2 ans.
Elle peut être aussi suivie en alternance ou en apprentissage, selon les établissements. Au lycée Gabriel Voisin, nous sommes en formation initiale.
Nous suivons des stages obligatoires pour une durée d'environ 14 semaines en 2 ans. Ça nous permet de découvrir le milieu professionnel.
La formation est organisée en 2 blocs. Le bloc 1 concernant le service et l'entretien dans l'environnement collectif, soit
entretien des locaux et du linge,
préparation et service des repas,
travail en équipe dans une structure d'accueil.
Le bloc 2 enseigne l'aide à l'autonomie dans l'espace privé.
Aide à la toilette, à l'habillage, au repas.
La communication avec la personne âgée. Activité pour maintenir l'autonomie et le lien social.
Il y a les matières générales aussi.
Pendant la formation, nous apprenons à comprendre le vieillissement et le besoin de la personne âgée.
Nous sommes formés pour aider dans les actes du quotidien, prévenir les risques.
Communiquer et créer une relation de confiance avec l'équipe.
Respecter l'hygiène et la sécurité.
Une fois qu'on a obtenu notre CAP, on peut exercer en tant qu'aide à domicile, ASH, agent de service hospitalier.
On peut aussi continuer sur des études plus longues, par exemple passer un bac pro ASSP, ce qui veut dire accompagnement, soins et services aux personnes, mention complémentaire, aide à domicile, ou un bac pro SAPAT, service à la personne et au territoire.
Ou un bac pro HPS, hygiène, propreté, stérilisation. Après ces bacs pro, on peut encore continuer nos études et entrer en école d'aide-soignante.
Merci beaucoup Léane et Clara pour cette présentation précise et perspective d'avenir.
Radio B, les bonnes ondes.
Léa a pris un micro et interrogé 2 personnes de notre lycée.
Quelles images ont-ils du vieillissement ? On écoute leurs réponses.
Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être vieux ?
Alors pour moi, être vieux, c'est d'abord un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on peut être vieux à 40 ans et ne pas être vieux à 60 ans.
Alors pour moi, être vieux, ça signifie avoir passé 70 ans, être tout ridé, avoir plein de cheveux blancs.
À partir de quel âge dit-on qu'une personne est âgée ?
Pour moi, je dirais à partir de 60 ans.
Je dirais que c'est à partir de 70 ans.
Merci à eux.
Ashley, c'est à toi, non ?
Oui, pour compléter ces avis et représentations, je vous parle du regard de la société sur le vieillissement. Vieillir, un mot simple et pourtant chargé de silence, de peur et parfois de malaise. Dans notre société, le vieillissement est souvent perçu comme une perte, perte de vitesse, de beauté, de productivité. Les rides deviennent des défauts à corriger, les cheveux blancs un signe à cacher, comme si le temps, au lieu d'être un allié, est un feu qui se consume lentement. Nous vivons dans un monde qui célèbre la jeunesse. Tout va vite, tout doit être neuf, performant et adaptable dans le décor. Les personnes âgées sont parfois reléguées à l'arrière-plan, invisibles dans les publicités, peu entendues dans les débats, souvent résumées à leur âge plutôt qu'à leur histoire. Et pourtant, vieillir, ce n'est pas disparaître, c'est accumuler victoire. C'est porter des erreurs, c'est porter en soi une bibliothèque entière de vie vécue. Le paradoxe est là. Nous le respectons les anciens dans les discours, mais dans le fait, nous les isolons. La solitude devient l'un des visages les plus silencieux du vieillissement. Non par un manque de famille, mais parfois par un manque de temps, d'écoute et de considération. Pourtant, changer de regard est possible quand on cesse de voir l'âge comme une fin et qu'on le reconnaît comme une richesse. Quand on comprend que les personnes âgées ne sont pas en dehors de la société, mais qu'elles en sont la mémoire vivante. Vieillir devrait être un passage, pas une mise à l'écart. Un chapitre différent, certes, mais toujours essentiel au livre collectif. Peut-être que le vrai défi n'est pas de rester jeune le plus longtemps, mais de construire une société où la vieillesse n'est plus une peur.
Merci Ashley.
C'était important d'en parler.
Vous écoutez Radio B.
Manel et Sarah sont allés à la rencontre des résidents et des résidentes de leur lieu de stage.
La pergola à Bourg-en-Bresse.
Elles les ont interrogées pour comprendre ce qui a changé entre leur jeunesse et la leur.
On écoute de suite leurs réponses.
En quel âge avez-vous eu votre premier téléphone portable ?
J'étais assez âgée, je ne me souviens plus. C'était un tout petit qui allait dans mon sac à main, mais c'était tout, c'était pas grand-chose pour moi.
J'ai horreur du téléphone. J'en ai eu comme tout le monde au début, puis c'est tout.
1998.
À 40 ans, par là. Même plus que ça.
Je n'ai jamais eu de téléphone portable.
Quand vous étiez jeune, comment communiquez-vous avec vos amis, votre compagnon, votre amoureux ?
Plutôt par lettre ou par carte, parce que on n'avait pas d'autres moyens, c'est tout.
Comme aujourd'hui, j'attendais de les voir pour communiquer.
On se donnait des rendez-vous. Mon Dieu, on faisait comme on pouvait.
Par lettre. Téléphone maison, voilà, c'est tout.
Alors, chaque génération a ses expressions. Par exemple, nous, pour dire un crush, on dit un pain. Et vous, vous utilisez quoi comme expression ?
On disait un amoureux, je crois bien. On va chercher plus loin.
On disait simplement le nom de la personne, bonjour, bonsoir, et c'est tout.
On disait ma chérie.
Il est plus jeune, il est notre Jules.
Pour aller au lycée, on se déplace en bus, maintenant. Est-ce que vous, c'était pareil ou c'était différent ?
Non, parce que moi, j'habitais dans le Pas-de-Calais. C'était plutôt à la campagne. Et on n'avait pas de bus à notre service. On faisait la route 4 fois par jour, matin, midi, soir. Et puis, on rentrait tranquillement. Et c'était drôle, quoi. On était 2 ou 3 copains, copines. Et c'était très intéressant.
Pour aller à mon travail, je prenais le bus aussi, tous les jours.
La voiture des parents ? Ou alors les pieds, marche à pied.
En vélo ou à pied.
C'était un tram qui faisait d'une ville à l'autre, de Nantua dans l'Ain, à Romérieux en Bugey où il y avait le lycée.
À partir de quel âge étiez-vous autonome sur vos déplacements ?
Quand je suis partie aux écoles, à ce moment-là, je ne dépendais plus de ma maman ou de mon papa.
Et à l'époque, on avait les parents dessus le dos jusqu'à ce qu'on quitte la maison.
Autonome, 16 ans.
Je pense 13 ans, 12, 13 ans.
Quand je suis venue travailler à Lyon, c'est-à-dire à 22 ans.
18 ans.
Aujourd'hui, en classe, nous avons des ordinateurs. Et vous utilisiez quoi quand vous étiez jeune ?
Quand on était jeune, on avait des livres, c'est tout, nous.
Il n'y avait pas d'ordinateur, ça n'existait pas. Donc c'était la plume.
Il n'y avait pas du tout de machine. Mais il y avait la machine à écrire.
On avait des cahiers, voilà.
Des petites calculettes et tout. Ou notre tête.
Quand vous aviez 16 ans, que faisiez-vous pendant votre temps libre ?
Je cousais avec ma mère.
J'ai travaillé dès 15 ans parce que j'ai plus voulu continuer l'école. J'étais en 5e, j'ai arrêté.
Je courais les garçons. Mais il courait plus vite que moi. Non, je me promenais avec une copine ou on allait en ville, comme on disait.
Pas grand-chose, on n'avait pas de vélo. J'aimais bien le foot et le rugby.
On se réunissait dans des fêtes. On n'avait pas toutes les mêmes amis, mais on discutait entre nous.
Je brodais et je dessinais, donc je faisais beaucoup de dessins de mode.
C'est à la fois intéressant et surprenant, ces réponses.
On enchaîne tout de suite avec un interview proposé par Solange et Aurélia.
Elles ont demandé à des professionnels de nous expliquer concrètement la différence entre un EHPAD et une MARPA.
On les écoute.
Nous sommes étudiantes en agent accompagnement au grand âge. Aujourd'hui, on accueille Sophie Cazel, la gouvernante de la résidence de la Pergola à Bourg-en-Bresse, l'animatrice Laetitia.
Bonjour, je suis Laetitia, je suis la responsable vie sociale de l'EHPAD.
Bonjour, je m'appelle Sophie Cazal, je suis gouvernante actuellement à la résidence La Pergola depuis 2020.
Quelle est la différence entre une MARPA et un EHPAD ?
Un EHPAD est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc à ce moment-là, les EHPAD sont médicalisés alors qu'une MARPA n'est pas du tout médicalisée. C'est vraiment un petit appartement avec des parties communes.
En MARPA, les personnes sont encore autonomes et peuvent faire beaucoup plus de choses que les résidents, ont des besoins moins importants, ont une plus grande autonomie.
Qui peut être hébergé en EHPAD?
Alors, les critères pour être hébergé en EHPAD, il faut avoir plus de 60 ans et avoir besoin d'aide. Donc pour ça, il faut absolument remplir un dossier médical qui va aussi nous permettre de déterminer le degré d'autonomie de la personne.
Et faire une demande sur des sites spécialisés via trajectoire, déposer une demande avec son dossier médical. Le dossier médical est ensuite étudié par notre médecin coordonnateur, par la cadre de santé. Voilà.
Quels professionnels interviennent en EHPAD?
Donc on a plusieurs professionnels qui peuvent intervenir en EHPAD. On a un directeur, après on a la partie soins, la partie hébergement. Donc au niveau du coup de l'hébergement, on a la responsable hébergement qui va gérer du coup tous les agents de service hôtelier, le service à table par rapport aux serveuses, la blanchisserie avec des lingères. Après on a aussi la cadre de santé qui va gérer toutes les aides-soignantes, les auxiliaires de vie s'il y en a. Les infirmières, qui dit infirmières, on parle aussi de médecins coordinateurs qui interviennent auprès de l'EHPAD, des aides médico-psychologiques qui font partie en soi des aides-soignantes diplômées ou pas. On peut retrouver aussi une psychologue et après toute la partie administrative, on peut retrouver les secrétaires accueil, le comptable, le responsable comptable et administratif et ainsi aussi on peut retrouver toute l'équipe cuisine et l'équipe, bien sûr, animation si... Ici, il y a une animatrice en EHPAD.
Chaque service répond à un besoin spécifique du résident. Nous avons également un service de maintenance qui s'occupe de l'entretien du bâtiment, qui travaille avec les différents professionnels, et un service vie sociale pour que les résidents continuent d'être actifs, de travailler le corps, de travailler l'esprit, la mémoire et d'être acteurs et ouvert sur l'extérieur grâce à des rencontres intergénérationnelles, des sorties et des festivités.
Peut-on vivre en EHPAD avec son animal de compagnie?
Certains EHPAD permettent à la personne âgée d'être hébergée avec son animal de compagnie. Pour cela, la personne âgée doit respecter certaines conditions. C'est au Conseil de la vie sociale en EHPAD, donc CVS, qui revient à la décision d'autoriser ou non l'hébergement des personnes âgées avec leur animal de compagnie.
Alors c'est une question délicate. C'est le Conseil de la vie sociale qui décide de oui ou non et des conditions d'accueil des animaux de compagnie. Donc le Conseil de la vie sociale, il y a des représentants des familles élus par les familles, des représentants des résidents élus par les résidents, ainsi que des représentants des salariés élus par les salariés.
À partir des cas, une personne âgée ne peut plus vivre seule.
Elle ne peut plus vivre seule quand elle n'arrive plus à accomplir les actes de la vie quotidienne. Donc, elle a besoin d'aide. Donc, c'est pour ça que les aidants ou la famille nous demandent de l'aide.
Une personne âgée ne peut plus vivre seule du moment où elle ne peut plus répondre à ses propres besoins des actes de la vie quotidienne, faire sa toilette, se faire à manger, quand il y a une mise en danger aussi de vivre seule au domicile.
Quand faut-il s'inquiéter pour un parent âgé?
Quand la famille se rend compte qu'il y a une mauvaise hygiène, il y a des difficultés à gérer les finances, des tâches ménagères oubliées, des surdoses de médicaments, des difficultés à conduire, des problèmes de mobilité, des changements d'humeur. Après, cela aussi peut s'exprimer par des troubles du comportement, des troubles cognitifs. Donc c'est à ce moment-là que les enfants s'inquiètent pour leurs parents.
On peut commencer à s'inquiéter pour un parent âgé justement quand il y a une mise en danger. Par exemple, quelqu'un qui va chuter à domicile, qui vit seul, quelqu'un qui va commencer à ouvrir le gaz et à oublier de l'éteindre. Il y a des petits signes comme ça. Également pour les personnes qui souffrent de la solitude, le fait de ne plus avoir de lien social, en fait, on perd au niveau cognitif. Et ensuite, c'est une espèce de cercle vicieux. Là, oui, c'est un signe que l'entrée en EHPAD peut être envisagée.
Merci à Solange ainsi qu'aux professionnels qui ont accepté de leur répondre.
Radio B, les bonnes ondes.
On entre dans une autre partie de l'émission.
Vont suivre deux chroniques pour aborder des pathologies associées au vieillissement.
Sarah commence tout de suite.
Je vais vous parler d'une maladie entourée d'idées reçues, la maladie de Parkinson. Que se passe-t-il réellement dans le corps? Comment vit-on avec la maladie de Parkinson? Quel espoir existe aujourd'hui pour les malades? Prenons quelques minutes pour mieux comprendre. La maladie de Parkinson, c'est quoi? C'est une maladie neurologique chronique et évolutive. Elle est liée à la disparition progressive de certains neurones responsables de la production de dopamine. Les gestes deviennent plus lents, moins fluides, plus difficiles à coordonner. On pense souvent que Parkinson se résume au tremblement, mais ce n'est pas toujours le cas. La lenteur des mouvements, la rigidité musculaire, les troubles de l'équilibre sont d'autres symptômes. Il existe aussi des symptômes invisibles comme fatigue intense, troubles du sommeil, anxiété, dépression, douleur ou difficulté de concentration. Ces signes peuvent parfois être difficiles à vivre au quotidien. Chaque personne vit la maladie différemment et doit apprendre à s'adapter. Certaines continuent à travailler, à voyager, à faire du sport. D'ailleurs, l'activité physique, la rééducation, le soutien des proches et le suivi médical jouent un rôle essentiel dans la progression des symptômes. Pour les professionnels, il ne s'agit pas seulement de soigner une maladie, mais d'accompagner une personne dans sa vie entière. Il n'existe pas encore de traitement curatif, mais les traitements actuels permettent de soulager efficacement les symptômes. La recherche avance, nouveaux médicaments, stimulation cérébrale profonde, thérapie innovante. L'espoir est bien réel et chaque année apporte de nouvelles pistes. Pour finir, la maladie de Parkinson ne définit pas une personne. Derrière le diagnostic, il y a des femmes et des hommes, des projets, des émotions et beaucoup de courage. S'informer, écouter et comprendre, c'est déjà agir contre l'isolement et les préjugés contre cette maladie.
Effectivement, c'est important d'en parler pour comprendre et mieux accompagner les personnes malades.
Je suis plus designer, parce que there is more. Je contrôle les douleurs.
Après cette pause musicale, on accueille Marina. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Avec Marina, on vous parle d'une maladie souvent liée au grand âge, la maladie d'Alzheimer.
Alors, explique-nous, c'est quoi la maladie d'Alzheimer exactement ?
La maladie d'Alzheimer est une maladie neurologique, c'est-à-dire une atteinte progressive du cerveau qui conduit au dysfonctionnement des neurones. Elle se caractérise par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles qui ont des répercussions dans la vie quotidienne.
Y a-t-il des symptômes à cette maladie ?
Oui, et ils évoluent dans le temps. Cette évolution est variable d'un individu à l'autre. Les troubles de la mémoire sont les symptômes les plus fréquents. Mais, selon santégouvernement.fr, ils doivent être associés à un autre trouble pour que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer puisse être évoqué. Il peut s'agir de troubles de langage, de difficultés à effectuer certains gestes, de la perte de la reconnaissance des objets ou des personnes, ou encore de l'incapacité à adapter son comportement à un contexte donné.
Peut-on guérir de cette maladie ?
On ne peut pas stopper la progression de la maladie d'Alzheimer. Il est donc à ce jour impossible de la soigner. Mais il existe des moyens de ralentir l'avancée de ses symptômes. Il existe 4 médicaments pour rendre le quotidien des malades et de leurs aidants plus facile. Ils ne traitent pas la maladie, mais les troubles cognitifs.
Comment prévenir la maladie ?
Il est possible de ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer, mais il est aussi possible d'en prévenir l'arrivée en prenant soin de son hygiène de vie, sur le plan physique comme mental.
Quels gestes peut-on pratiquer pour réduire le risque ?
Attention, ces gestes de prévention ne sont pas des gestes miracles, mais une activité douce quotidienne, comme la marche, le vélo, le yoga, ont un effet positif sur la fonction cérébrale.
Merci pour cet échange enrichissant. C'était un vrai plaisir de pouvoir aborder ensemble ce sujet.
Vous écoutez Radio B.
On l'a vu, la maladie impacte la vie des personnes malades. Mais pas seulement.
Leurs proches se retrouvent eux aussi confrontés au changement et à la détresse de voir peu à peu la personne qu'ils aiment changer.
Qu'en est-il vraiment ?
Pour en parler, on reçoit Clara et Léane.
Ashley vient de nous expliquer ce qu'est la maladie d'Alzheimer et ce que ça représente pour la personne.
Cependant, cette maladie ne touche pas uniquement le malade, elle transforme profondément la vie de toute sa famille.
Le diagnostic est souvent vécu comme un choc.
Les proches ressentent de la peur, de la tristesse et une grande inquiétude face à l'avenir.
Ils savent que la maladie est évolutive et incurable, ce qui provoque un sentiment d'impuissance et d'angoisse. Cette étape marque le début d'un long parcours émotionnel.
Au quotidien, la famille doit s'adapter. Les responsabilités augmentent. Aider la personne à se laver, s'habiller, manger, se déplacer, surveiller sa sécurité et gérer les rendez-vous médicaux.
La vie personnelle et sociale des proches est profondément modifiée.
Un conjoint devient un aidant, un enfant devient responsable et les projets de vie sont souvent mis de côté.
Cette charge constante entraîne un épuisement physique et psychologique important. Les aidants familiaux souffrent fréquemment de stress, de fatigue, d'isolement et parfois de dépression.
Ils vivent une forme de deuil progressif car ils perdent peu à peu la personne telle qu'ils l'ont connue.
Les relations familiales sont également mises à l'épreuve. La maladie peut renforcer certains liens, mais elle peut aussi provoquer des tensions, des conflits et un sentiment d'injustice entre les membres de la famille, notamment dans le partage des responsabilités.
À cela s'ajoute un impact économique non négligeable.
Les soins, les aides à domicile, l'aménagement du logement ou l'hébergement en établissement spécialisé représentent des coûts importants.
Par ailleurs, certains proches doivent réduire ou abandonner leur activité professionnelle, ce qui fragilise encore plus la situation financière.
Face à ces difficultés, le soutien est indispensable.
Les familles ont besoin d'un accompagnement médical, psychologique, social et parfois financier.
Les moments de répit, les groupes de parole et les associations jouent un rôle essentiel pour prévenir l'impuissement des aidants.
Ainsi, la maladie d'Alzheimer est une épreuve qui touche une famille.
Elle bouleverse les rôles, les relations et l'équilibre de vie.
Accompagner les proches aidants est une priorité, car prendre soin d'eux, c'est aussi prendre soin de la personne malade.
Et voilà, notre émission touche à sa fin.
Merci à vous de nous avoir écoutés.
Un grand merci au lycée Gabriel Voisin de Bourg-en-Bresse pour nous avoir permis de réaliser ce projet.
Merci également à nos professeurs pour leur accompagnement tout au long de ce travail.
Et bien sûr, merci à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions, que ce soit au lycée ou lors de nos stages.
Grâce à vous, nous avons pu mieux comprendre les réalités du vieillissement et partager ces regards avec vous.
On espère que cette émission vous aura permis d'en apprendre davantage sur notre formation, le CAP Agent Accompagnement au Grand Âge.
Et surtout de porter un autre regard sur les personnes âgées.
On se trouve très bientôt sur les ondes de Radio B.
À bientôt.
BG, VGT dans le TGV, dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pas.